J'aime bien regarder les gens à qui je dois m'adresser. En fait, je reconnais pas mal de visages au milieu de vous. Et puis, il y a des absents. En fait, ils ont déménagé pour la maison du Père, je pense. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont venues les remplacer. Alors, je suis heureux de me trouver devant vous ce matin. Et je vous apporte les salutations de l'église que je fréquente, l'église de la Béroche, où nous servons le Seigneur de tout notre cœur, comme vous le faites. Alors, pour me présenter un petit peu, si c'est trop fort, vous le dites, je me recule, enfin, je vais essayer de vous arranger. Pour me présenter un petit peu plus que ne l'a fait notre ami Eberly, j'ai travaillé pendant plus de 30 ans à Radio Réveil, où j'ai été réalisateur d'émissions, speaker, j'ai conduit aussi l'équipe de réalisation des émissions, de programmation, et voilà. Voilà, c'était mon travail, mais je dis toujours entre autres parce qu'à Radio Réveil, il fallait être polyvalent. Tiens, je cherche quelque chose. Il n'y a pas une pendule qui nous indique quelle heure il est chez vous? Ah, est tellement bien situé que je la vois même pas. Voilà. Donc, j'ai fait tous ces travaux, et pendant toute cette période, j'ai beaucoup visité votre église ici. J'ai retrouvé des dates de 1980 à 1992. J'ai visité pratiquement une fois par mois pour le culte et une fois par mois pour la réunion de semaine, à quelques exceptions près. Mais comme il y a des gens aussi de l'église de Peseux qui sont là, eh bien, j'ai remarqué que de 1980 à 1992, j'ai aussi fréquenté l'église de Peseux pour apporter la parole de Dieu. Et puis j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de retrouver un ami d'enfance, Ronald Monod. Vous connaissez? Voilà, et il m'a invité, j'ai accepté, mais j'étais dans une situation physique très très mauvaise, j'étais malade quand je suis venu pour le culte. Je vous en reparlerai tout à l'heure parce que c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Je veux vous rendre grâce parce que vous avez prié pour moi, et je veux rendre grâce à Dieu et à vous qui avez prié pour moi. Et pendant ces années où je me suis trouvé à Radio Réveil, en fait depuis 1989, nous avons créé une association qui s'appelle la MEIM, M-E-I-M, MEIM Suisse, parce qu'il y a une MEIM France, puis une MEIM Madagascar. MEIM, Mission Évangélique Indépendante de Madagascar. Alors l'année prochaine, l'association va fêter ses 20 ans, mais en fait ça fait plus de 25 ans que nous travaillons pour Madagascar. Voilà, je me suis assez présenté. Alors, j'aimerais que nous lisions dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 5 à 10. Et je vois que c'est très sympathique, il a été prévu une petite boisson pour l'orateur s'il en a besoin. Merci. Alors, le texte est un petit peu compliqué, et puis je le lis dans la Bible à la colombe. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont cette version ou si vous avez d'autres versions plus anciennes. Ça peut être un peu différent, mais l'important, on va se comprendre. Donc, Luc chapitre 11, verset 5, Jésus leur dit encore: « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains ». Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, nous dormons, je ne puis me lever pour te donner des pains. Nous dormons, c'est pas écrit, hein. Mais ça m'amuse de le rajouter. Je vous le dis, même s'il ne se lèvera pas, pour lui, les lui donner parce qu'il est son ami, Il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, allez-y, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, celui qui cherche, et à celui qui frappe, on ouvrira. Vous connaissez bien ce texte. Surtout le texte relatif à la prière. Parce qu'il s'agit bien de prière. J'aime bien prendre un texte dans son contexte, voir ce qui se dit avant, ce que Jésus enseigne avant, ce que Jésus enseigne après. Eh bien, juste avant notre texte, il est question de « Seigneur, apprends-nous à prier » et le « Notre Père » est donné par Jésus. Alors, ce n'est pas une prière à répéter régulièrement, même si ça se fait dans certaines églises, c'est une prière à digérer, à assimiler et à faire nôtre pour toute notre vie, pour tous nos moments de prière. Cette prière, nous devrions peut-être un peu plus souvent la prier, parce que nous, on le fait, enfin, nous les évangéliques, en tout cas à la Béroche, on le fait presque jamais, peut-être une fois par année. Alors, on devrait peut-être le faire un peu plus. Et puis, le texte qui suit, le texte que nous avons lu, nous parle d'une prière d'un fils à son père, et ce fils demande quelque chose de bon. Et Jésus de dire, vous n'êtes pas si bon que ça, vous. Enfin, il dit, vous êtes mauvais. Enfin, si vous n'êtes pas si bon que ça, et vous donnez de bonnes choses à vos enfants qui les demandent, alors votre Père Céleste, que vous priez, à qui vous demandez, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que vous êtes quémandeur du Saint-Esprit? Voilà cette histoire. Seulement, elle est un petit peu complexe. Elle est étrange parce que c'est une longue question ponctuée de si. Toute une question, cette histoire. Alors moi, je vais vous faire une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme qui est parti en voyage. Et dans son périple, il est retardé par je ne sais quoi. Le chemin est peut-être plus long que ce qu'il avait prévu. Ou bien, il a dû s'arrêter à quelque part pour une raison ou une autre. Et il n'arrivera à destination, au village, que dans la nuit. Il va voyager de nuit, puis attendez, que dans la nuit, au milieu de la nuit, puisqu'il est question de minuit. Eh bien, cet homme, il est en danger dans son parcours la nuit. Et puis, il est fatigué. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais la nuit, je préfère me reposer et puis dormir. Enfin, je sais que vous êtes comme moi. Et puis, il a faim, ce personnage. Et quand on a faim, on a moins de force, on s'effraie plus vite. Toutes sortes de phénomènes se passent quand on a faim, et puis il est sale. C'est l'ami voyageur. Enfin, il arrive, ce voyageur. Mais voilà, il sait qu'il a un ami dans cette ville, ou dans ce village, dans ce lieu. Et il se rend chez lui, il cherche. Mais il se rend chez lui, mais à l'improviste. Vous savez qu'à cette époque-là, il n'y a pas le téléphone mobile pour dire « Hé, j'arrive dans une heure !» Ni même le téléphone tout court. On arrive à l'improviste chez les amis. Et c'est ce qui se passe, et il demande l'hospitalité. Mais alors, il y a un problème. Et de taille. L'ami reconnaît son ami à la porte. Il ne réfléchit pas. C'est son ami, il lui dit « Entre !» Mais seulement, il n'a plus rien chez lui. Demain, à la première heure, il doit aller au supermarché. Il n'a rien. Alors, il a dit « Entre !» Et puis, à un ami, est-ce qu'on lui dit « Écoute, va trouver quelqu'un d'autre, j'ai rien. » Est-ce qu'on lui dit ça? On va chercher, on va être ingénieux pour un ami. L'amitié donne de l'ingéniosité. Alors il le fait entrer, et puis il remarque qu'il n'a rien, mais il sait qu'il y a un de ses amis, Il a de la chance, celui-ci. Il a beaucoup d'amis. Hein? Les vrais amis, vous les comptez sur les doigts de la main? Des fois, on n'en a pas beaucoup. Eh bien là, il y en a au moins trois qui sont amis. Et lui a deux amis. Il a de la chance. Et le voilà qui se dit, je vais aller chez mon ami. Mais c'est minuit, comment il va me recevoir? Peu importe, j'ai un ami qui a besoin, qui est dans le besoin, je dois l'aider, je vais aller trouver mon ami. Et puis si mon ami refuse, s'il me refuse son amitié, il est prêt à risquer son amitié pour une autre amitié. Ou bien alors, il sait que son amitié, leur amitié, va permettre une réponse et quelque chose qui lui sera donné. Et il va y aller et il va risquer cela. Vous me suivez dans cette histoire recadrée, remise en place? Mais vous entendez les arguments de l'ami? Mais non, je ne peux pas. Je vais quand même vous expliquer pourquoi il ne peut pas. C'est que il n'y a pas une chambre à coucher pour les parents, une chambre à coucher pour les enfants, puis attendez, une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles, si possible, chacun sa chambre, s'il y a deux garçons, chacun sa chambre, si possible. Mais non, à cette époque-là, on vivait couchés les uns à côté des autres. Et c'est le frère Kalam qui va me dire qu'il est d'accord avec moi, parce que c'est comme en Afrique. Et quand les parents veulent retourner vers la porte, il faut enjamber les corps des autres personnes qui dorment dans la pièce. Alors, je peux pas déranger tout le monde, mais je me demande comment il parle. Il devait essayer de parler doucement pour pas réveiller tout le monde, et pour finir, tout le monde est réveillé. Alors, il y va, il trouve toutes mes excuses. Il ne s'est rien passé. Il trouve la lumière, il allume la lumière, il y voit clair et il va du côté cuisine, parce que la cuisine, elle est simplement d'un côté, elle n'est pas dans une pièce à part. Et il va prendre là les pains dont son ami a besoin. Et il lui dira même, t'as besoin de sel? T'as besoin de quelques œufs? Qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout ce que tu veux maintenant que tu m'as réveillé. Que tout le monde est réveillé, on peut y aller. Et le texte nous dit que l'ami, il va faire ce geste de tout donner, ce que... Mais il faut que je fasse attention parce que maintenant c'est la lampe que je vais mettre par terre. Donc l'ami... Jésus va dire, ce n'est pas parce que c'est son ami qu'il va se lever, c'est parce qu'il est dérangé, parce qu'il est importuné. Et c'est un mot très important dans ce texte, c'est le mot central de ce passage. C'est sans gêne, impudent et importun. Voilà, je vous ai décrit l'histoire. Alors cette histoire, elle peut être prise sous trois angles différents, trois angles de compréhension différents. Il y a tout d'abord le sens direct qui vous vient à l'esprit, je suis sûr que vous le savez, c'est la demandez, et vous, c'est la prière. Le premier sens de cette parabole, c'est la prière. Priez, n'ayez pas peur d'importuner Dieu. Du moment qu'il sera dérangé, il vous donnera tout ce que vous voulez. J'exagère peut-être un peu. Mais c'est ce qui saute à l'esprit dans une première lecture, c'est ce que nous comprenons tout de suite. C'est ce que Jésus a voulu dire, tout d'abord, que nous prions, que nous ne nous gênions pas de prier. À certains moments de ma vie spirituelle, je disais, mais enfin... Qu'est-ce qui doit être dérangé une Seigneur par toutes ces prières? Puis des prières des fois, elles ne sont pas que ta volonté soit faite, elles sont Seigneur, fais ceci, fais cela. Puis on a des fois on prie, mais comme si on avait besoin d'exercer de l'autorité sur Dieu. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, n'enfoncez pas la porte. Frappez et on vous ouvrira. C'est paisible. Est-ce que votre prière est paisible ou bien est-ce qu'elle est... Et puis nous prions au nom de Jésus. Qu'est-ce que ça signifie, prier au nom de Jésus? C'est que nous prions des choses que Jésus pourrait prier. Alors je crois que ça va limiter peut-être certaines de nos prières. Non, ça Jésus ne le demanderait pas. Et puis ce n'est pas une formule que le Seigneur veut que nous racontions, disions à la fin de notre prière. Vous savez, on demande ceci, cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Puis quelquefois, vous vous rendez compte, on dit « Seigneur Jésus, fais ceci et cela ». Puis à la fin de la prière, on dit « Nous te le demandons au nom de Jésus ». On s'adresse déjà à Jésus. C'est quand on s'adresse à Dieu qu'on peut demander au nom de Jésus. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur cet élément qui est toute une... réflexion, toute une prédication de son côté. Mais ici, c'est l'importunité qui est mise en avance. Une importunité tranquille, confiante, une importunité amicale. C'est un mot unique dans le Nouveau Testament qui est employé là par Luc. Moi, ça me parle... J'ai de la peine à transmettre ce que je ressens. Mais si c'est unique à cet endroit-là, c'est que c'est d'une importance capitale. Et ça me remet en cause ma manière de prier. Non pas une manière où on dit à Dieu ce qu'il a à faire, mais une manière paisible de rester devant lui, d'être important. De rester jusqu'à minuit. Enfin, c'est pas une question d'heure, c'est une question d'état d'esprit et de position devant Dieu. Et alors, ce que nous demandons, nous pouvons le recevoir. Ce que nous cherchons, nous le trouvons. Et il nous est ouvert pour ce dont nous avons besoin. Vous savez, il faut savoir que demander pour recevoir, c'est une loi universelle. Je vous propose un exemple. Vous habitez dans un locatif, le taux hypothécaire baisse, si vous ne demandez pas une baisse de loyer, vous ne l'aurez pas. Mais combien de fois vous demandez par jour à votre épouse, à votre mari, à vos enfants, à vos parents, enfin, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. Et tout le temps, nous recevons. Avec notre Père Céleste, nous demandons et nous recevons. Alors je dis pas ça parce que je suis un homme excessivement exaucé par Dieu, je dis ça parce que c'est l'Écriture qui le dit, c'est Jésus qui nous y encourage, et quand, il y a de l'écho dans cette salle, quand je parle et que vous entendez mes paroles, je m'entends et je m'en prends plein la figure. Oui, j'ai besoin de persévérer dans la présence de Dieu pour frapper et recevoir une réponse. Je vais prendre un autre angle de ce texte, c'est l'angle de la solidarité. Là, l'ami hôte, l'ami qui reçoit, qui est au village, qui reçoit le voyageur, eh bien, il se sent solidaire de celui qui vient. Il n'est pas là pour simplement vous dire « Oui, je suis ton ami », il est là pour agir. Il joint l'action à la parole. Pour un ami, on va se remuer, on va faire quelque chose, et on va même peut-être risquer, comme je vous le disais, l'amitié d'un autre ami. Il a un besoin, il est dans des difficultés, il en a besoin, eh bien, je vais l'aider. Mais il n'a pas ce qu'il faut, il faudra qu'il aille vers le troisième ami. Bien, voyez-vous, je vous ai dit que je m'occupe de la mission évangélique indépendante de Madagascar. Nous nous sentons dans cette mission, nous nous sentons solidaires de nos amis à Madagascar, de ces églises autochtones qui passent par la souffrance, qui subissent des cyclones et des ravages par les criquets voyageurs. Tout ça doit parler à certaines personnes. Et nous nous sentons solidaires. Nous aimerions faire quelque chose pour eux et nous faisons quelque chose pour eux. Alors, c'est la question de la solidarité. Et là, l'ami qui reçoit, il va chercher aussi de la solidarité auprès du troisième ami. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc nous voyons qu'il y a une grande solidarité qui doit se créer. On parle de la solidarité nord-sud, les pays du nord, les pays du sud. Et on peut parler aussi de la solidarité des chrétiens du nord avec les chrétiens du sud. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais il me semble que oui, en entendant les prières qui ont été adressées à Dieu au début de ce culte. La solidarité, c'est le but de la communauté. Vous vivez en église, vous vivez pour être solidaires les uns des autres. Que vous soyez des personnes jeunes ou des personnes très âgées, vous êtes solidaires les uns des autres. Ce qui me réjouit, c'est quand les personnes âgées se sentent solidaires des jeunes, et puis les jeunes, alors, elles se sentent solidaires des personnes âgées. Je pense que c'est aux plus âgés à faire le premier pas. Croyez pas ? La solidarité, c'est le but de l'Église. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons rien faire tout seul. Et même, vous n'avez pas de pasteur, mais si vous aviez un pasteur, il aurait besoin de vous, ne serait-ce que pour écouter ses sermons. Et puis vous auriez besoin de lui. Mais il faut qu'une solidarité, une vraie solidarité, se mette et s'accomplisse entre chacun. Quand on prie ensemble, on est solidaire. Et j'apprécie beaucoup, j'ai redécouvert depuis que je suis à la retraite, j'ai redécouvert les vertus de la prière communautaire dans un petit groupe de famille, le mercredi matin à 9h30. Super, mes amis, super. Je peux présenter mes problèmes, on prie pour moi, et puis les autres présentent leurs problèmes et nous prions pour lui. C'est la solidarité. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis, si deux ou trois s'entendent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Demandez et vous recevrez. Par la prière, on se rend solidaire. Et puis, j'arrive au troisième angle. C'est la réalisation du manque personnel. L'ami qui reçoit, il réalise, il accepte qu'il n'a pas tout ce qu'il faut. Il ne peut pas faire face à la demande parce qu'il n'a pas cela. Il n'a pas ce qu'il faut. C'est l'angle de la maturité quand on reconnaît qu'on n'est pas capable et qu'on a peut-être besoin des autres pour que eux se mettent en œuvre et que eux puissent répondre aux besoins. Quand on commence une œuvre, on a des déclarations. Bien sûr, pour commencer une œuvre, faut dire on va faire ceci, on va faire cela. Ça n'a pas été le cas de la mission évangélique indépendante de Madagascar parce qu'elle s'est créée bizarrement, naturellement, toute seule. Mais beaucoup disent je vais faire ceci, je vais faire cela, et on donne quelquefois l'impression que les autres n'ont pas su faire. Mais moi, vous allez voir ce que vous allez voir, je sais faire, je vais vous montrer. Et puis les difficultés s'amoncellent, les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite, puis même parfois les prières ne sont pas exaucées comme on l'aurait souhaité. Et la maturité fait réaliser qu'il aurait fallu ne pas être seul et compter aussi sur les autres. J'ai entendu la confession d'un missionnaire qui a été le moteur du travail en Haute-Volta, c'était à l'époque comme ça qu'on appelait le Burkina Faso, et quand il a eu une certaine reconnaissance par l'État et que d'autres missions voulaient s'établir, le gouvernement a demandé « Mais qu'est-ce que vous en pensez, ce groupe d'église ?» Et il a eu des avis un petit peu mitigés, il n'a pas été très très chaud, si bien que ces églises, ces missions n'ont pas pu s'établir et prendre l'ampleur qu'il fallait. 20 ans plus tard, ce missionnaire disait son regret de ne pas avoir poussé le gouvernement à accepter toutes les bonnes missions parce que l'islam avait avancé presque aussi vite que les églises locales. Donc, nous avons besoin des autres et nous avons besoin de le reconnaître depuis le début. Je vous redonnerai encore un exemple de la mission, la MEIM, que je préside. Nous avons passé des accords avec toutes sortes d'autres associations pour ne pas faire les choses tout seul, mais pour que, ensemble, nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Et j'ai remarqué, ceux qui travaillent seuls, ceux qui veulent être seuls, souvent, ils le font pour en tirer de la gloire tout seul, de la gloire personnelle. Nous ne travaillons pas pour notre gloire, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, je veux conclure en vous posant une question. Qui est la personne principale de cette parabole? Il y a l'ami voyageur, mais lui, il est dans la difficulté. Il a besoin d'un logement. Il y a l'ami qui reçoit l'ami voyageur. Et puis, il y a l'ami couché qui reçoit la visite de l'ami qui reçoit l'ami voyageur. Je sais pas, est-ce que je suis clair? Non. Alors je recommence. Non, je vais pas trop recommencer. C'est l'histoire telle que je vous l'ai racontée. Il y a cette fameuse visite, n'est-ce pas, qui, pour terminer, va te donner le dénouement de tout. Alors, qui est le plus important? C'est celui qui apporte le dénouement. C'est-à-dire, c'est l'ami couché. Il ne fait rien pour le moment. Puis c'est légitime. Il fait nuit. C'est minuit. Tout le monde dort. Les lampes sont éteintes. Enfin, je ne veux pas recommencer toute l'histoire. C'est l'ami couché qui est le personnage principal. Et si l'on applique à la prière cette pensée, l'ami principal, c'est notre Père Céleste, auprès de qui nous allons recevoir tout le soutien, toutes les réponses aux besoins que nous avons vécus. Mais peut-être vous vous reconnaissez dans une des catégories, peut-être quelqu'un d'entre vous se dit « Moi, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, vous êtes l'ami voyageur, c'est minuit pour vous et vous auriez besoin d'une porte qui s'ouvre et d'une amitié qui réponde à votre besoin. » Peut-être c'est le cas pour que certains d'entre vous, vous êtes fatigués du combat. Eh bien mes amis, frappez à la bonne porte, demandez à vos amis de l'aide, n'ayez pas peur de dire que vous avez des problèmes. On n'est pas des chrétiens, alléluia, tout va bien. On est des chrétiens, alléluia, on va essayer de s'entraider. Une petite nuance. Le deuxième ami, celui qui reçoit, il a aussi son importance. J'allais dire, il fait le lien entre l'ami en difficulté et l'ami couché. Alors notre mission, on se sent, comme je vous l'ai dit, solidaire des amis à Madagascar. Et souvent, il nous arrive d'avoir des demandes. Mais, si nous n'avons pas des donateurs, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai aussi pour Radio Réveil, où j'ai longtemps travaillé. Et puis, cet ami qui reçoit, c'est aussi l'église que vous formez. Il y a tant de personnes dehors qui ont besoin de pouvoir frapper à une porte, que vous puissiez leur présenter cette porte, leur dire on vous accueillera, on vous aidera, on vous fera du bien, on vous mettra en relation avec quelqu'un, et ce quelqu'un, mes amis, il est extraordinaire. C'est notre Père Céleste. Quel ami allons-nous accepter d'être? Il y a un défi là. Alors, c'est clair que si vous êtes le voyageur, celui qui est perturbé, celui qui est fatigué, ben, n'ayez pas peur déjà d'aller frapper, d'aller demander de l'aide. Mais si vous êtes un ami qui peut apporter de l'aide, mais qui remarque son manque, est-ce que vous saurez demander aussi à quelqu'un d'autre de vous aider? Et puis si vous êtes l'ami qui a ce qu'il faut, c'est d'abord Dieu, notre Père, mais vous pouvez être aussi l'ami qui a ce qu'il faut pour les autres, eh bien, n'hésitez pas. Parce que beaucoup dépend de cela.